Vous écoutez
RMC.
Jeudi 24 novembre,
l'info sur RMC.
Il est 8h, très bon réveil, très belle matinée à vous tous. Vous êtes bien dans Apolline Matin sur RMC et RMC Story. C'est l'heure du journal, Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. RMC vous le révèle ce matin, une plainte déposée contre l'hôpital Cochin à Paris. Une jeune femme admise aux urgences a été violée par un faux patient. L'interdiction de la corrida débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Proposition de loi de la France insoumise. Et puis on ira prendre des nouvelles des Bleus en direct depuis Doha à 2 jours du match contre le Danemark.
Une plainte déposée contre l'hôpital Cochin à Paris, RMC vous le révèle ce matin.
Une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Fin octobre, une jeune femme a été violée alors qu'elle venait d'être admise aux urgences. Bonjour Guillaume Bié.
Bonjour.
Chef du service police-justice d'RMC, vous avez enquêté. Le suspect, un homme sans papier, avait repéré sa victime juste avant son hospitalisation.
Oui, quand cette jeune femme fait un malaise à la sortie d'un bar et qu'elle tombe inanimée, un homme rôde et la regarde avec insistance d'après des témoins. Les pompiers emmènent la victime à l'hôpital Cochin et une heure plus tard, ils reviennent devant le bar car cette fois, c'est le rôdeur qui est au sol. Il simule un malaise selon des témoins, mais les pompiers le conduisent lui aussi à Cochin. Là, il quitte sa chambre et retrouve la jeune femme inerte. Il la viole et s'enfuit après lui avoir volé sa carte bancaire. Alors, au-delà des faits, l'un des avocats de la victime, maître Alexandre Laubry, porte plainte contre l'hôpital Cochin.
Ma cliente, elle a eu un double traumatisme. Un traumatisme en raison d'effets criminels dont elle a subi, et un autre traumatisme en raison du lieu. Un établissement public hospitalier, on y est pour être soigné et être en sécurité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Tout établissement public de santé a une obligation de surveillance.
Guillaume, on a aussi des éléments sur le profil de l'agresseur.
Oui, il se présente comme étant jordanien, âgé de 22 ans et serait arrivé en France en 2019. C'est un homme en situation irrégulière. D'après nos informations, il était sous le coup de 2 OQTF, 2 obligations de quitter le territoire, délivrées cette année sous 2 identités différentes. Il a été mis en examen et écroué.
Information RMC de Guillaume Bié, chef du service police-justice. La corrida dans l'arène de l'Assemblée. La France insoumise veut l'interdire. La proposition de loi portée par le député Émeric Caron, invité d'Apolline à 8h30, doit être débattue aujourd'hui. Texte qui a peu de chances d'être adopté. Même le président de la République l'a prédit hier. Il n'y aura pas d'interdiction et ce n'est pas la priorité. La corrida considérée comme un art de vivre dans le sud de la France. Les jeunes toreros ne sont pas du tout prêts à renoncer à leur passion dans leur école de formation à Garon près de Nîmes. Le reportage d'Estelle Henry pour RMC.
Ce sont 2 collégiens pas comme les autres qui ont un rêve en commun.
Mon objectif, c'est d'être matador de taureau.
Mais moi, pareil que lui, mon rêve, c'est de devenir matador de taureau, mais comme les grands.
Ici, Clovis et Rémi s'entraînent 2 fois par semaine avec une 20aine d'autres apprentis matadors. Ils enchaînent les gestes techniques avec toujours un objectif en tête, se mettre à la place du taureau.
Avant de savoir taurer, il faut savoir faire le taureau, parce que comme ça, au moins, on apprend comment le taureau y voit. On est sensible à sa souffrance, bien sûr.
Nous, on ne veut pas qu'il souffre.
Valentin, 19 ans, lui, a déjà tué des taureaux. Il réfute l'idée d'une forme de sadisme avancée par les anti-corrida.
Parce qu'eux, ils voyaient la vision de la mort du taureau, les banderies, la pique. Mais il n'y a pas que ça. Nous, si on le tue, c'est pas par plaisir, parce qu'on a envie de tuer. On n'est pas des tueurs, bien au contraire. Moi, je ferai pas de mal à une mouche.
Des apprentis que forme Patrick Varin, ancien matador. Pour lui, le vrai tueur, c'est surtout le taureau de combat.
Il faut qu'on revienne quand même à connaître l'animal, le taureau. Ça fait 500 ans qu'il est sélectionné pour le combat. Ils sont là pour tuer. Moi, j'ai eu des copains, ils y sont restés. Hein. La mort, pour nous, elle n'est pas dans une barquette aux prises uniques. Hein.
Depuis la rentrée 2022, le Centre français de tauromachie n'a jamais eu autant d'élèves.
Les insoumis qui profiteront aussi de cette journée pour faire inscrire l'IVG dans la Constitution. La France insoumise qui doit dans le même temps gérer l'affaire Quatennens, il ne retournera pas sur les bancs de l'Assemblée nationale. Décision prise hier par les responsables LFI à la justice de trancher après les nouvelles révélations de son épouse. Dans un communiqué, Céline Quatennens a dénoncé des colères, des violences physiques et morales depuis plusieurs années. Une version contestée par le député du Nord. Au sein de la NUPES, certains élus veulent aller plus loin. Le porte-parole des députés socialistes, Arthur Delaporte, réclame carrément le départ d'Adrien Quatennens.
Adrien Quatennens doit démissionner. Il n'a plus sa place à l'Assemblée nationale. Cette accusation, finalement, même si on peut dire qu'en droit, il faut attendre le procès, elle jette un soupçon sur l'éthique et sur le comportement d'un responsable politique. Et donc, il ne peut plus avoir sa place dans les rangs de la NUPES qui défend des valeurs féministes et notamment le fait de croire dans la parole des femmes. En l'occurrence ici, on a l'expression de la parole d'une victime et il faut la prendre en considération et en tirer les conséquences.
Attention, la grippe arrive, et une grippe virulente. 5 régions déjà placées en stade pré-épidémique et vous êtes nombreux à ne pas vous être fait vacciner. 4 millions de vaccinés depuis un mois et demi, depuis le début de la campagne de vaccination, contre 5 millions l'an dernier. Les autorités sanitaires craignent la surcharge des hôpitaux. C'est la journée de la précarité énergétique. Au moment où les prix de l'énergie ont augmenté de 28% sur un an, les associations s'inquiètent de plus en plus de ménages, pas forcément en plus en situation de précarité, se privent de se chauffer. C'est le cas de ce couple qu'a rencontré Marilyn Ottman pour RMC. Ils vivent dans l'heure et leur logement est une passoire thermique.
Dans l'appartement que loue ce couple d'enseignants, les 4 pièces sont toutes mal isolées.
Et là, on est où ?
Dans la salle de bain.
Je crois que la fenêtre est mal collée au niveau du mur. Évidemment, pour chauffer cette pièce-là, c'est quasiment impossible.
On a très froid.
Seule la chambre à l'étage est chauffée, mais quelques heures par jour.
On a le chat qui se cache tout le temps dans la chambre, c'est là où il fait le plus chaud.
Concrètement, là, si vous laissiez tous les chauffages allumés...
Essayez d'atteindre les 18-19 degrés, on serait à minimum 500 euros pour un mois.
Une situation qu'ils ont du mal à accepter.
En salaire net, on est autour des 1800-1900 euros. C'est assez affligeant de voir que... On fait partie de la classe moyenne, on n'est pas à plaindre, mais on a quand même beaucoup de mal à se chauffer. Donc moi, j'imagine même pas les gens qui sont vraiment en grosse difficulté économique en général.
La flambée des prix de l'énergie fait plonger de nouveaux ménages dans la précarité énergétique. Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, lance l'alerte.
On n'est qu'au début de la hausse des prix de l'énergie. Il n'y a aucun économiste qui pense que les prix de l'énergie vont chuter en 2023 ou 2024.
L'an prochain, les factures de gaz et d'électricité vont encore gonfler. Le gouvernement a promis de limiter la hausse des prix à 15%.
Et J-2 avant le deuxième match des Bleus contre le Danemark.
RMC Coupe du Monde 2022.
Avec en ligne de mire la qualification pour les huitièmes de finale. Aujourd'hui, conférence de presse et entraînement au programme. On retrouve en direct de Doha Fabrice Hawkins, l'un des envoyés spéciaux de RMC. Fabrice, avec le forfait de Lucas Hernandez, la défense est toujours en chantier. Ce qui amène Didier Deschamps à tester des options assez surprenantes.
Il faut de tout pour faire une équipe et le problème de la défense des Bleus, c'est qu'il n'y a presque plus de gauchers, donc Didier Deschamps a essayé le milieu et Eduardo Camavinga au poste d'arrière-gauche. Une première pour le joueur, c'était lors d'un match amical hier soir contre le club qatarien d'Al Gharafa. Le bricolage de Didier Deschamps a plutôt bien fonctionné puisque dans son nouveau rôle, le milieu du Real Madrid a marqué un but. Le sélectionneur obligé d'être un peu créatif avec la blessure du défenseur Lucas Hernandez mardi soir. Un Hernandez pour en remplacer un autre puisque c'est son frère Théo qui sera titulaire, mais derrière il n'y a plus personne. Dans le staff, on croise les doigts pour que Théo Hernandez reste en bonne santé, mais si la malchance se poursuit, c'est Eduardo Camavinga qui pourrait découvrir un nouveau poste.
Merci beaucoup Fabrice Hawkins en direct depuis Doha. Et aujourd'hui, c'est l'entrée en lice du Brésil contre la Serbie, ça sera à 20h. Et avant cela, le Portugal joue contre le Ghana à 17h. Match à suivre en direct sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. On va maintenant faire la connaissance de la toute nouvelle recrue de l'Agence spatiale européenne, Sophie Adnaud, 40 ans, bourguignonne, un CV exceptionnel. Elle est ingénieure, pilote dans l'armée et surtout, elle a été choisie parmi 22 000 candidats pour devenir la deuxième femme astronaute française de l'histoire après Claudie Aigneret, un de ses modèles d'ailleurs. Le spatial, elle en rêvait depuis enfant.
C'est un moment assez incroyable que certes j'ai rêvé depuis petite fille, mais le rêve il devient même pas concret aujourd'hui parce qu'on a du mal à se rendre compte de ce qui se passe en réel. J'y ai travaillé, ouais, j'ai beaucoup travaillé. J'ai toujours rêvé en fait du spatial depuis très longtemps. C'est un nouveau monde, c'est beaucoup d'inconnus, mais bon, je le prends avec beaucoup d'optimisme et de simplicité. Bon, je vais apprendre le job au fur et à mesure.
L'annonce a été faite hier depuis le Grand Palais éphémère à Paris. Une promo de 5 nouveaux astronautes qui va succéder à celle de Thomas Pesquet. Un peu de patience avant la mise en orbite, probablement à partir de 2026.
Elle est assez fascinante quand même, cette nouvelle astronaute avec un pédigré inouï. Il est 8h09, c'était le journal de Marguerite Dumont.